Jésus dit à ce jeune homme, « Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus invite à le préférer à toutes les richesses. Si Jésus n'était qu'un homme, cela serait une erreur, mais comme Jésus est Dieu, c'est logique. Et je voudrais dans un premier temps approfondir cette vérité que Jésus est Dieu, dans un second temps, voir comment nous pouvons le suivre en le mettant d'abord au premier plan avant tout ce que nous possédons et même nous-mêmes. Jésus dit à ce jeune homme, « Pourquoi me dis-tu bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. » Saint Jean Chrysostome fait remarquer que le Seigneur Jésus ne prétend pas que les hommes ne puissent être bons, mais il dit que leur bonté est nulle en comparaison à celle de Dieu. Et cette bonté dont il s'agit ici, ce n'est pas simplement la bonté morale qui est importante, bien sûr, mais c'est le fait que Dieu est infiniment aimable. Il est le bien suprême, il est notre bonheur, notre richesse suprême. Et Jésus invite ce jeune homme à voir sa véritable identité, qu'il est Dieu, un seul Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Depuis à peu près 120 ans, il y a une erreur qui s'est répandue, qui est celle-ci. Il y aurait deux Jésus, un Jésus historique et puis un Jésus de la foi. Deux Jésus différents. Jésus de la foi serait inventé, on aurait fait une sorte de Dieu, et Jésus historique serait quelqu'un qui aurait vraiment existé. Alors cette erreur vient d'un certain Buchmann, un protestant allemand, qui avait fait le choix de ne jamais aller en Terre Sainte, jamais regarder l'archéologie, puisqu'il était d'un courant particulier qu'on appelle l'idéalisme, où l'idée primait sur la réalité. Le problème, c'est que la réalité, c'est ce qui fait l'histoire. Et quand nous regardons avec précision les évangiles, nous voyons qu'ils sont fiables. Ce ne sont pas des histoires inventées. Par rapport aux autres écrits de l'Antiquité, ce sont même les écrits les plus fiables, nous disent les historiens qui regardent les choses avec un peu de sérieux. Fiables par rapport à la date de leur écriture, qui est très proche de l'événement, fiables par la transmission de ces écrits, il y en a de très nombreux exemplaires qui ont été étudiés, fiables aussi par la façon de raconter ce qui se passe, où le réalisme est premier, il n'y a pas de volonté d'enjoliver les affaires. Jésus, le Fils de Dieu, meurt sur une croix, ce qui est inimaginable à l'époque. Ses apôtres, le chef des apôtres, vont le trahir, ou vont fuir plutôt, etc., etc. Il y a un grand réalisme qui montre que le Jésus de l'histoire est bien le Jésus de la foi, le Jésus historique, c'est bien le Fils de Dieu qui ressuscite, qui fait des miracles. Jésus le dit lui-même, il reprend à plusieurs reprises le nom même révélé de Dieu dans l'Exode chapitre 3, verset 14, Yahvé, qui se traduit par « Je suis ». Et Jésus, dans l'Évangile, dit plusieurs fois « Ego eimi » en grec, c'est la traduction grecque, du mot « Yahvé, je suis, je suis ». Et là, il se déclare Dieu. D'ailleurs, certains vont à un moment donné vouloir le lapider, parce qu'ils pensent qu'il blasphème, tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Et pourtant, il est réellement Dieu. Il est vrai que si nous rencontrons quelqu'un dans la rue qui nous dit « Je suis Dieu », on va dire « Ça va pas, il raconte n'importe quoi ». Alors, est-ce que Jésus est du genre à raconter n'importe quoi? Eh bien, c'est facilement constatable. Son évangile a transformé la civilisation, en a fait la plus belle des civilisations. Sa morale, sa sagesse montrent qu'il ne raconte pas n'importe quoi, mais quand il dit qu'il est Dieu, nous pouvons aussi y adhérer. Ces miracles aussi l'attestent. 31% de l'évangile de Saint Marc, un tiers, rapporte des miracles. Ce n'est pas anodin. Cela fait partie de l'attestation de la véritable identité de Jésus jusqu'à cette phrase de saint Thomas qui dit « Mon Seigneur est mon Dieu » quand il voit Jésus ressuscité. « Mon Seigneur est mon Dieu ». Et encore, le Seigneur permet à son Église de réaliser des miracles quand elle proclame que Jésus est Dieu. Non seulement cela, mais nous tous, nous pouvons expérimenter une relation personnelle avec Jésus Dieu par la prière personnelle, notamment par ce grand don de l'adoration. Si ce n'était que du pain, n'y aurait pas beaucoup d'adorateurs. Mais s'il y a plus de 300 personnes qui viennent adorer chaque semaine, nuit et jour, eh bien c'est parce que Jésus est là, il est Dieu. Il donne la joie et la paix. Et ce n'est pas une auto-persuasion. Je voudrais rapporter cette histoire qui m'est arrivée il y a quelques années. Une paroissienne qui était adoratrice demande à une autre de la remplacer. Mais elle n'a pas expliqué à cette autre paroissienne qu'elle était devant Jésus, ce n'était pas que du pain. Voilà. Et cette paroissienne vient prendre cette heure d'adoration. Quelque temps après, cette paroissienne qui venait de remplacer l'autre me dit « Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est devant moi? J'ai expérimenté une joie, une paix, mais qu'est-ce que c'est ?» Et je lui ai expliqué que c'était vraiment Jésus qui était là devant elle. Elle ne savait pas, elle ne pouvait pas s'auto-persuader que c'était Dieu, mais elle a expérimenté la présence de Dieu devant elle. Alors le Seigneur, s'il est Dieu, il est logique de le préférer à tout. Il y a deux possibilités. Soit que nous le faisions dans une vocation particulière, je pense aux prêtres, aux religieux, aux consacrés, et qui, comme le dit saint Pierre, quittent tout pour suivre Jésus. Et cela est important dans notre monde, de nous rappeler que Dieu n'est pas absent, qu'il peut combler un cœur. Je pense à ce qui est arrivé à des sœurs. Trois sœurs qui étaient au bord de la mer, sur un chemin de douanier, un peu resserré. Elles étaient l'une après l'autre, elles marchaient en filadienne, un peu espacées. Les deux premières étaient en tenue de sœurs, et la dernière n'était pas encore vraiment sœur, elle était en discernement, elle était habillée voilà, comme tous. Et la dernière, comme elle était derrière, entendait les remarques des gens qui les croisaient. Et c'était assez étonnant. Quelqu'un disait « Mais t'as vu, cette sœur, elle est jeune, etc. » Voilà, ça remettait en perspective de la présence de Dieu. Ça étonne. Alors, quel contraste avec le rapport qui est sorti cette semaine d'horreur, de personnes qui ont pour mission de servir Jésus, sa grandeur, de tout quitter pour lui. Et ces personnes, ces prêtres notamment, ont abusé et c'est des crimes. Et donc, il est bon d'alerter cela, car il y a quelque chose de diabolique que nous sommes appelés tous, par la prière au moins, mais aussi par l'action quand c'est nécessaire, à combattre. Toutefois, cette émotion qui en ressort, cette tristesse, ne doit pas entraîner une désespérance. Car ce qui n'a pas été dit dans ce rapport, hélas, c'est que l'immense majorité des consacrés, des prêtres, ne sont pas des criminels, et quitter Dieu, quitter tout pour Dieu, est vraiment source de bonheur. Il est bon aussi de se poser pourquoi, avant 1950, cela était rare. Même si les statistiques paraissent bizarres dans ce cas, puisque un seul cas est de trop, mais il est bon de se poser cette question, qui a été confirmée par les études aux États-Unis en 2008, pourquoi ces abus suivent la pente de la crise de l'Église. Nous pouvons comprendre par là qu'une des clés de lutte, c'est la ferveur de la vie de l'Église. Une invitation à une plus grande ferveur, c'est ce qui nous ouvre à l'espérance. Le problème ne venait pas du secret de la confession qui existe depuis l'origine, qui est une voie divine que personne, même le pape, même un ministre, ne pourrait changer. Au contraire, cela est un élément de la lutte contre le péché. Mais le problème, c'était quand cet abus était connu par la hiérarchie, de façon répétée, surtout à une période, cela n'a pas entraîné des actions pour combattre cela. Aussi, le secret de la confession est absolu et je m'engage devant vous, et tous les prêtres sont comme cela, à même préférer la prison plutôt que de le trahir. Mais revenons aux paroles de Jésus. Jésus regarde autour de lui et dit à ses disciples « Comment il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ?» Et Jésus dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Comment faire quand on a une famille à charge, qu'on doit payer un loyer ou des impôts locaux, quand nous devons changer de voiture, comment faire pour en même temps préférer Jésus à nos biens? Alors, je voudrais vous donner deux moyens. Le premier moyen, c'est de se libérer de certaines richesses pour être libre. Et deuxième moyen, de développer notre relation personnelle avec Jésus. Se libérer de certaines richesses, s'il est même nécessaire pour le devoir d'État, de quelqu'un qui vit dans le monde, d'avoir des biens, il est important d'en être libre pour préférer Jésus à cela. Une façon d'en être libre, c'est d'en donner une partie pour les pauvres ou pour l'évangélisation, pour ne pas avoir le cœur accroché à ses richesses. Une partie qui est à choisir selon chaque nécessité, selon chaque personne. Mais il n'y a pas que la richesse de l'argent, il y a cela bien sûr, mais aussi la richesse de la réputation. Parfois, le Seigneur nous demande de mettre cette richesse de côté, quand nous déclarons catholiques par exemple, et ça peut entraîner dans notre entourage une moquerie. Eh bien, nous sommes appelés à préférer notre foi, Jésus, à notre réputation. Parfois, ça peut être la richesse du temps. Nous sommes dans une société où le temps prend une grande valeur, car il manque souvent. Eh bien, c'est de mettre Jésus en premier que de donner du temps chaque jour pour le prier, même en vacances, de le préférer à un temps qui est bien nécessaire, de continuer à voir la messe dominicale. Ça peut être aussi la richesse de la carrière. Je pense à ces jeunes étudiantes sages-femmes qui préféraient être objectrices de conscience en respectant la vie de l'enfant dès sa conception et ainsi peut-être de mettre une carrière de côté. Tous ces choix sont pour un plus grand bien. De fait, comme le dit dans un livre récent Rod Dreher, de fait, être chrétien, c'est accepter parfois de souffrir pour notre foi en perdant certaines richesses, mais au final, c'est de gagner un grand bonheur. Et ce bonheur, nous le recevons dans cette relation personnelle avec le Christ, dans cette prière quotidienne, notamment l'adoration qui nous est offerte ici. Nous avons le prochain week-end tout un programme pour nous aider à rentrer plus profondément dans cette attitude de prière et d'union à Dieu. Ainsi, cette relation personnelle à Jésus nous donne la force intérieure de faire ce qui est impossible pour nous, mais pas pour Dieu, de préférer Dieu à tout. Et ainsi, nous pouvons faire nôtre cette première lecture du livre de la sagesse en remplaçant par le mot « sagesse » par Jésus. Tout l'or du monde auprès de Jésus n'est qu'un peu de sable. En face de lui, l'argent est regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, j'ai aimé Jésus. Je l'ai choisi de préférence à la lumière parce que sa clarté ne s'éteint pas. Amen.